Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Encore, c'est la deuxième rencontre de cette année seulement. Et ça fait trop plaisir qu'il y ait encore autant de monde. Merci beaucoup encore. Ce soir, on accueille Mathias Guéret. Merci beaucoup, beaucoup d'être là ce soir. On lance en fait, c'est la première présentation de ce livre, « Quand nos désirs font des ordres », une histoire du mouvement homosexuel en France de 1974 à 1986. Et c'est paru aux éditions Luxe, qu'on remercie chaleureusement aussi. Alors Mathias, tu as également publié une histoire des groupes de libération homosexuelle dont il va être question ce soir. Un bouquin qui s'appelle « Qui sème le vent récolte la tapette », c'est paru chez Tain Parti. Et tu as participé à l'ouvrage collectif « Lesbienne, PD, arrêtons de raser les murs », c'est paru aux éditions de La Dispute. Alors Mathias, tu es par ailleurs docteur en histoire contemporaine et ce livre est tiré de ta thèse. Partant qu'il n'y a pas ou peu d'archives institutionnelles sur les mouvements homosexuels. Comment est-ce que tu as mené ton étude? Comment est-ce que tu as procédé?
Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, cette histoire ou cette recherche, elle a commencé maintenant, c'était en 2015, c'était il y a une dizaine d'années. Ça a commencé ici, à Toulouse. Je venais d'arriver à Toulouse et j'ai commencé un master d'histoire à la fac du Mirail. Et voilà, je me suis dit que j'avais envie de travailler sur l'histoire du mouvement homosexuel français. Parce que déjà, j'avais l'impression, pas qu'une impression, qu'il n'y avait pas grand-chose, que les rayons des librairies et des bibliothèques étaient relativement vides sur toute cette littérature-là. Et voilà, et du coup, je me suis lancé. Je me suis lancé dans l'aventure de vouloir travailler sur les groupes de libération homosexuelle dans les années 70. Et comme tu disais, du coup, les archives sur lesquelles travailler sur cette histoire, c'est majoritairement des archives privées. Donc, c'est des archives que les uns, les unes, les autres ont gardées, ont eu la perspicacité de garder au fil des ans. Et en fait, c'est vraiment une chasse au trésor qui s'est progressivement mise en place. C'est-à-dire que j'ai d'abord eu le contact d'un premier monsieur qui s'appelle Christian à Marseille, qui a constitué un fonds d'archives privé de chez lui, qui s'appelle Mémoire des sexualités. Et ça a été ma première... je suis allé à Marseille, je suis allé le rencontrer lui, et en fait, il avait un appartement avec des archives qui montaient jusqu'au plafond. Et il avait comme ça eu la perspicacité depuis les années 70 de tout garder. Et je l'ai rencontré, et on a progressivement commencé à discuter. Il y avait tout un enjeu, je pense, à être en confiance. C'est-à-dire que c'est une histoire, c'est leur histoire. Une histoire politique, certes, mais aussi très intime. Une histoire qui les a bouleversés. Et du coup, il y avait l'envie, l'enjeu de savoir un peu à qui il parlait. Et du coup, j'ai régulièrement été un peu testé par les militants et les militantes de cette époque. Savoir un peu ce que j'en savais, qu'est-ce que je voulais faire de cette histoire. Et voilà, c'est une chasse au trésor qui s'est construite. Une fois que j'avais rencontré Christian, une fois que j'ai pu avoir accès à des premières archives, il m'a donné le contact d'autres personnes, un peu réparties sur l'ensemble du territoire français, métropolitain. Et c'est comme ça que je suis allé rencontrer les uns, les unes, les autres, et que j'ai réussi à constituer une certaine somme d'archives pour écrire cette histoire.
C'est vrai qu'en lisant le bouquin, c'est très riche d'archives. Déjà, il y a des témoignages immédiats, il y a des petites anecdotes, il y a énormément de photos de manifs, c'est trop cool, rien que de voir les tenues quand même. Alors, tu écris au début, tu évoques les émeutes de Stonewall du 28 juin 1969 comme étant un peu la date d'émergence d'un mouvement homosexuel aux États-Unis ou peut-être à l'international, en tout cas en Occident. C'est peut-être une date un peu mythologique. Est-ce qu'il y a une date particulière en France qui marquerait le commencement d'un mouvement homosexuel? Et pourquoi fais-tu commencer ton étude en 1974?
Ouais. Je pense, moi, comme plein d'autres, on s'est construit avec cette idée que tout avait commencé à Stonewall. Et voilà, que l'histoire du mouvement LGBTQIA+, venait de là, et que c'était qu'une lente et inexorable marche vers l'émancipation. Et en fait, progressivement, de voir que effectivement, c'est un mythe, c'est une mythologie dont on a peut-être besoin, effectivement, d'avoir des mythes pour construire notre histoire, mais qu'on n'avait peut-être pas besoin d'aller de l'autre côté de l'Atlantique pour aller chercher les débuts de cette histoire. Et j'ai l'impression qu'en tout cas pour l'histoire du mouvement homosexuel en France, peut-être une date qui me fait beaucoup plus sens, c'est la date du 1er mai 1971, quand le FAR, le Front d'Action, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, va participer à la manif du 1er mai à Paris, et va troubler un peu ce rituel de la gauche, de l'extrême gauche. Ça va... Les membres du FAR vont se placer derrière le cortège du MLF, du Mouvement des Libérations des Femmes, et ça va quand même relativement mal se passer avec le service d'ordre de la CGT. Et voilà, du coup, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus sens d'aller chercher le début d'une histoire d'un mouvement homo en France dans ce 1er mai 1971 que en 69 à Stonewall. Mais il faut bien évidemment aussi se dire que tout ça, c'est pas apparu de nulle part. C'est-à-dire qu'il y avait des organisations préexistantes, par exemple au FAR. Alors, en France, c'est une organisation qui s'appelle Arcadie, qui est une organisation qui a été fondée en 1954 par un ancien séminariste du nom de André Baudry, et qui défend une espèce d'idée un peu comme respectable de l'homosexualité. Il ne faut quand même pas trop faire de vagues et plutôt vivre discrètement. D'ailleurs, on ne va pas parler d'homosexualité. Enfin, ils ne vont pas se considérer comme homosexuels, mais comme homophiles, parce que homosexuel, ça touche trop à la sexualité. Donc, il y a des choses qui existent auparavant, mais vraiment, le coup d'éclat serait peut-être ce 1er mai 1971. Et après, la question de pourquoi moi, je fais débuter mon histoire en 1974, c'est qu'en réalité, même si donc le FAR, effectivement, pareil, moi, dans ma mythologie personnelle, ça a été particulièrement important. Quand j'ai découvert le rapport contre la normalité, qui est un des premiers textes du FAR, j'ai vraiment, enfin, ça a été beaucoup d'émotions de se dire, waouh, en fait, on peut être PD, on peut être révolutionnaire à la fois. Ça m'a donné beaucoup d'élan, beaucoup d'envie. Mais il se trouve que même s'il y a eu quelques petites expériences ailleurs qu'à Paris, le FAR, en fait, c'est une réalité parisienne. Et ce qui va se passer à partir de 1974, avec la naissance des groupes de libération homosexuelle, c'est qu'il va y avoir des groupes qui vont vraiment se diffuser sur l'ensemble du territoire français. Donc on va avoir évidemment des groupes à Paris, à Lyon, à Marseille, dans les grandes villes comme ça, mais aussi vraiment dans des villes beaucoup plus petites, à Brest, à Mulhouse, à Caen, à Troyes, enfin voilà, dans plein de petites villes. Et du coup, moi je considère, ou j'ai eu envie de considérer, que le mouvement... en France, il débutait vraiment quand il y avait ces groupes qui se répartissaient un petit peu sur l'ensemble du territoire.
Alors quand apparaît le premier GLH à Paris, en fait, à la suite, il y en a énormément qui apparaissent en France. Comment et peut-être pourquoi est-ce qu'ils apparaissent aussi vite? Pourquoi est-ce qu'il y avait un tel besoin, en tout cas, de se réunir ou de militer ensemble chez ces jeunes gens?
Bon, on est déjà dans une décennie qui est particulière, qui est la décennie des années 70, où se développent énormément de mouvements que peut appeler du sujet minoritaire en France, mouvement féministe, mouvement antiraciste, mouvement homo, mouvement écologiste. Et c'est dans cette dynamique-là que va s'inscrire le mouvement homosexuel français. Je pense vraiment faut rappeler que le mouvement homosexuel français doit énormément au mouvement féministe, qui a vraiment essuyé les plâtres du virilisme gauchiste, des organisations de gauche et d'extrême gauche. Clairement, on oublie souvent, par exemple, le FAR, il a été créé par des lesbiennes, par des féministes, et que les garçons sont venus par la suite. Donc voilà, donc il y a vraiment un enjeu à rappeler ce que le mouvement homo doit au mouvement féministe. Et la raison pour laquelle autant de groupes se fondent dans ces décennies-là, il y a un besoin... y a un besoin, une envie de se rassembler, d'être avec d'autres. Là, en ce moment, j'étudie ou je travaille sur la correspondance que reçoivent ces groupes de libération homosexuelle. Et du coup, c'est énormément de lettres de jeunes personnes qui ont 18, 20 ans, qui habitent dans la campagne ou autour d'une grande ville ou une ville de taille moyenne d'ailleurs, qui écrivent au GLH et qui crient leur solitude, qui crient à quel point ils sont en train de crever et qui ont besoin de sortir de l'isolement, qui ont besoin de trouver des camarades, des amis, des amants. Et c'est ça qui va générer cet enthousiasme-là. Ouais.
Tu cites plutôt au début du bouquin un article qui parle du phare, où c'est écrit que le phare n'est que l'homosexualité en marche, tous les homosexuels conscients sont le phare. Toute discussion à deux, à trois est le phare, et qu'il est donc une nébuleuse de sentiments et d'actions. Donc en fait, en plus de vouloir sortir de l'isolement, il y a dans les GLH, on comprend dans le bouquin, le désir de développer de nouvelles formes de vie, des nouvelles sociabilités politiques, intimes, militantes. Comment est-ce que ça s'est théorisé et pratiqué ? Est-ce que tu peux revenir sur une différence que tu fais assez tôt dans le bouquin entre militantisme et militance ?
Du coup, c'est un concept, je ne sais pas si c'est eux qui l'inventent, hein, mais en tout cas, les militants et les militantes des GLH ne vont pas utiliser le terme militantisme pour parler de leur action politique. Pour eux, le militantisme, c'est distribuer un tract, faire une réunion. Pour eux, et du coup, eux vont plutôt utiliser le terme de militance pour parler de ce qu'ils font, de leur action. C'est-à-dire que eux et elles considèrent que leur engagement, c'est un engagement entier. Il s'agit certes de faire de la politique, mais aussi de trouver des semblables, de trouver des camarades. Ils tiennent des positions, des discours en disant que s'outer, ou en tout cas se rendre visible comme homosexuel, ça vaut autant que la distribution d'un tract. Et vont chercher à intégrer finalement dans leur action politique énormément d'autres facteurs qui peut-être se retrouvent moins dans d'autres mobilisations. La question de la fête est hyper importante, par exemple, dans les GLH. Le rapport à la sexualité, de rencontrer un amant, c'est quelque chose qui est... quelque chose qui est une réalité, mais qui est aussi comme valorisé, qui est... il raconte que, oui, c'est dans ces groupes-là aussi qu'il peut se passer toutes ces nouvelles formes d'être ensemble, et ce qu'ils vont vraiment chercher à développer tout au long des années 70.
Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas encore exactement évoqué, mais en fait les GLH se voulaient mixtes au début et entretenaient des liens parfois conflictuels avec les mouvements en non-mixité, les mouvements de lesbiennes. Qu'en est-il de la mixité concrètement dans les GLH ? Ouais.
Alors, c'est une question qui est... j'allais dire complexe. C'est pas forcément complexe, mais... qui va évoluer tout au long des années 70. Faut avoir en tête que au départ, une grande majorité des lesbiennes s'organisent dans le mouvement féministe, où elles se sentent plus à leur place, où elles se pensent aussi en tant que sujet femme dans un mouvement féministe. Et du coup, les premiers GLH, les premiers groupes de libération homosexuelle, sont quand même très majoritairement, soit exclusivement composés de garçons, soit très majoritairement composés de garçons. Pour autant, les discours politiques dans les manifestes, dans les tracts que vont écrire ces GLH, ils vont en permanence et toujours se déclarer alliés des mouvements féministes, en soutien, et vont chercher à développer la mixité au sein de leur propre groupe. Et donc, il y a certaines lesbiennes qui vont progressivement rejoindre les GLH, mais ça va être tout le temps des expériences particulièrement éphémères. Parce que les garçons dans les GLH restent particulièrement pétris de misogynie. Et les lesbiennes qui font partie de ces groupes vont en fait progressivement en partir parce qu'elles sont fatiguées de devoir lutter contre leurs propres camarades. Donc ça, c'est de façon générale. Il y a un GLH en particulier que moi je trouve assez intéressant, qui est le GLH de Lille, qui est peut-être le GLH le plus mixte de tous les GLH. Et pourtant, c'est un GLH qui va, ou en tout cas les lesbiennes de ce GLH vont développer une réflexion qu'à ce moment-là, elles qualifient comme antiféministe, où elles se disent contre le féminisme. Mais c'est pas tant ça ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est juste qu'elles ne veulent plus lutter pour l'avortement, elles ne veulent plus lutter pour la contraception. Elles considèrent que c'est des sujets, des enjeux qui, en tant que lesbiennes, ne les concernent pas. Et c'est un petit peu ce que, quelques années plus tard, Monique Wittig va théoriser dans la pensée straight et ce qui va donner naissance au mouvement lesbien radical et séparatiste. Et donc, voilà, au GLH de Lille, c'est particulièrement mixte, elles tiennent ces positions-là. Mais en réalité, très vite, les lesbiennes qui ont tenté de s'organiser au sein d'un GLH, qui n'en peuvent plus de lutter au sein du mouvement féministe, parce qu'elles ne sont absolument pas entendues, elles ne sont absolument pas écoutées en tant que lesbiennes, vont en fait faire le choix de s'organiser de façon autonome et entre elles. Et du coup, en 1975, va y avoir la naissance du premier groupe lesbienne féministe, GLF, qui est le pendant finalement des GLH. Et ça va se passer à Paris. Et ensuite, sur le reste du territoire français, va y avoir une quinzaine de groupes lesbiens qui vont apparaître. Et du coup, dans ces groupes lesbiens, elles font justement disparaître le sigle, la lettre féministe qu'il y avait auparavant, parce qu'elles elles veulent créer une distance, une dissociation avec le mouvement féministe plutôt hétéro de cette époque-là. Et après, il y a évidemment il y a d'autres GLH qui sont beaucoup plus misogynes, qui l'assument comme tel. Il y a un GLH à Paris qui est de tendance 14 décembre, parce que c'était une scission, il est né ce 14 décembre 1975, et lui va clairement porter des positions antiféministes. Mais quand même, voilà, de manière générale, les GLH, même s'ils sont majoritairement, voire exclusivement composés de garçons, se déclarent en soutien aux luttes féministes et aux lesbiennes.
Alors oui, tu as parlé de ces correspondances aussi qu'entretenaient soit les garçons avec les GLH, soit les GLH entre eux. Concrètement, c'était quoi la vie d'un GLH dans les villes? Dans quel type d'action est-ce qu'il s'inscrivait? Peut-être moins à Paris, plutôt... Enfin, pas à Paris. Oui, pour pas dire en province quoi, ou en région.
Au tout début de mes recherches, je pense que j'avais effectivement... j'avais le besoin, je pense, de légitimer l'action de ces GLH. Et donc, ce que je suis allé chercher dans les sources, dans les archives, c'est des distributions de tracts, des réunions, des manifs. Voilà, chercher finalement ce qui ressemblait plus à des formes de militantisme plus classiques. Mais j'avais l'impression que si je trouvais ces traces-là, ça allait donner une forme de légitimité à ce mouvement et lui donner un peu de puissance. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que ça ne marchait pas comme ça. En tout cas, que les GLH ne fonctionnaient pas comme ça. Que la spécificité des GLH, c'est donc de se retrouver sur une base qui est la sexualité de ses membres. Et comme je disais tout à l'heure, de nombreuses personnes écrivent aux GLH parce qu'ils ont besoin de sortir de l'isolement, ils ont besoin de sortir de l'anonymat, ils ont besoin de rencontrer des camarades et des amis et des amants. En fait, la première fonction d'un GLH, c'est celle d'un groupe de parole. C'est-à-dire qu'on se réunit chez les uns, chez les autres, et pendant tout un temps, souvent quelques mois, en fait, les gens ils ont besoin de parler, en fait. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de raconter leurs conditions, ils ont besoin de trouver des récits similaires aux leurs. Et donc, voilà, le premier temps, c'est celui du récit de soi, du groupe de parole. Et c'est que vraiment dans un deuxième temps que le groupe va commencer à établir, à construire une ligne politique pour son groupe. Il faut savoir que vraiment les GLH, c'est des groupes qui sont complètement autonomes. Il n'y a pas de formulaire à signer, il n'y a pas de déclaration à faire pour devenir un GLH. Devient GLH n'importe quel groupe qui le veut, qui se reconnaît dans des positions. Et donc, c'est dans un deuxième temps, ils vont essayer conjointement de construire une ligne politique commune de façon très majoritaire dans les années 70 sur des bases politiques qui sont révolutionnaires. Et c'est dans un troisième temps seulement qu'ils vont débuter une action vers l'extérieur. Et les premières actions, ça peut être effectivement d'aller distribuer un tract sur un marché, ça peut être de participer à une manif, ça peut être d'organiser une fête. Voilà, il y a tout un nombre de répertoires d'actions qui sont ceux des GLH, mais voilà, qui se font à différents niveaux et il y a différentes étapes finalement pour avant de voir un GLH avec une banderole dans la rue.
Alors, à l'oral, c'est pas évident quand on dit groupe de libération homosexuelle, on sait pas si c'est les groupes ou si c'est la libération qui est homosexuelle. Et en fait, dans le livre, du coup, ça synthétise, enfin, tu l'abordes et ça synthétise un petit peu les dissensions et les tensions qu'il y a entre un courant qui est plutôt communautaire et un courant qui est plutôt révolutionnaire.
En fait, il y a deux façons d'écrire groupe de libération homosexuelle. Enfin, le mot homosexuel, on peut l'écrire de deux façons. Soit on l'écrit au masculin, donc groupe de libération homosexuelle, c'est un groupe homosexuel de libération, voilà. Ou alors homosexuel E2LE, et du coup, c'est un groupe de libération de l'homosexualité. Et ça va effectivement diviser le mouvement en deux. Alors, de façon très majoritaire, la graphie qui l'emporte, c'est au masculin, groupe de libération homosexuelle. C'est un groupe homosexuel de libération. Parce qu'on est justement dans ces années 70, on est dans ce moment des mouvements du sujet minoritaire, les groupes de libération homosexuelle qui se pensent dans une perspective révolutionnaire, ils vont participer à peu près à tous les mouvements sociaux de l'époque. Ça va être en 75 de manifester contre une centrale nucléaire à Fessenheim. Ça va être en 77 d'être sur le plateau du Larzac contre l'extension du camp militaire. Voilà. Donc ils se pensent, voilà, ils sont homosexuels, mais eux veulent faire une libération globale, générale, et donc faire la révolution. Là où l'autre courant, c'est moi qui le définis comme communautaire, parce que les autres, ils le pensent comme réformiste. Mais j'imagine, enfin, où je me dis que le réformisme des années 70 n'est pas tout à fait le même que celui auquel on pense aujourd'hui. Et eux, effectivement, ils sont beaucoup plus dans une perspective de lutter pour leur communauté et pour un mouvement ouvert à toutes et à tous, et dans une espèce de perspective de défense, justement, du sujet homosexuel.
Tu as dit que c'était une époque où il y avait énormément de courants révolutionnaires et tu mentionnes aussi que beaucoup de militantes et de militants avaient milité ou militaient toujours dans des organisations révolutionnaires ou gauchistes ou d'extrême gauche à l'époque. Quels étaient les liens, enfin bon, il y a des phrases qui sont assez choquantes dans le bouquin quand même, mais quels étaient les liens avec la gauche, plutôt l'extrême gauche aussi, avec genre le Parti communiste ou la CGT?
Bah ça commence mal. Du coup, si on part du 1er mai 1971, où du coup le cortège du phare se fait attaquer par le service d'ordre de la CGT, ça pose un peu l'ambiance. Effectivement, nombre de militants et des militantes des GLH ont fait partie d'une organisation de gauche, d'extrême gauche, d'un parti, d'un syndicat. Un certain nombre d'entre eux, en fait, en sont partis parce que juste, ils pouvaient plus. Parce que c'est des partis, des organisations dans lesquelles ils devaient cacher leur sexualité. Et du coup, ils étouffent, en fait. Ils étouffent dans les carcans de leur parti, de l'organisation, et du coup, ils s'en vont. Certains, tout simplement, se font virer, se font exclure de leurs organisations quand on apprend qu'ils ou elles sont homosexuels et lesbiennes. Et du coup, au début des années 70, on est vraiment dans une situation très compliquée où ceux qui vont s'intéresser en premier aux revendications du mouvement, c'est vraiment l'extrême gauche. Et à nouveau, en ayant en tête que les féministes ont quand même fait pas mal de boulot en amont, qu'elles ont, avec toutes ces perspectives du privé et politique qu'elles ont amené depuis 1970, voilà, elles ont déjà fait énormément de taf. Mais donc ouais, c'est les organisations d'extrême gauche qui vont d'abord commencer à être un peu plus sensibles à un discours sur l'homosexualité et particulièrement la LCR qui va d'ailleurs qui va avoir une commission homosexuelle dès 1976 au sein du parti. Donc ça, pour l'extrême gauche, évidemment, les courants anarchistes sont aussi beaucoup plus sensibles et sont beaucoup plus proches du mouvement à cette époque. Et ça, les partis de gauche, on va dire, vont mettre beaucoup plus de temps. Va d'abord y avoir le parti socialiste qui va faire évoluer ses positions à partir de 1976 et le parti communiste encore un peu plus tard. À partir de la fin des années 70, quand ils vont affirmer un soutien qui n'est quand même pas toujours évident et qui continue à être remis en cause au début des années 80, mais c'est quand même un soutien qui va être de plus en plus fort au fil du temps. Pour le coup, il y a quand même vraiment de la part des militants et des militantes surtout pour ceux et pour celles qui ont déjà milité dans une organisation de gauche ou d'extrême gauche, une forme d'autorépression particulièrement forte, de se dire qu'ils ont réussi à se construire avec cette idée que leur lutte n'est vraiment pas prioritaire. Et du coup, il y a tout un sentiment de pas toujours savoir à quelle place ils sont et s'ils sont à la bonne place. Et du coup, ça va aussi générer pas mal de colère vis-à-vis des organisations de gauche et d'extrême gauche.
Parce qu'il y a des tentatives aussi de lien avec la classe ouvrière, avec les syndicats. Enfin, il y a un moment, c'est un membre des GLH qui dit qu'on a voir un patron gay et une ouvrière lesbienne. Il y a quand même une lecture de classe aussi qui se mélange avec l'homosexualité. Comment est-ce que ça se traduit ça dans la théorie?
Donc, on va dire autour de 75, 76, 77... les GLH qui s'inscrivent dans le courant révolutionnaire sont en réalité pour beaucoup profondément marqués par une théorie trotskiste et du coup ils vont développer toute une réflexion autour de ce qu'est l'identité homosexuelle, c'est-à-dire que la raison première pour laquelle ces garçons et ces filles se retrouvent dans un GLH, c'est de par leur sexualité, leur homosexualité. Et une fois qu'il y a ce premier rassemblement, il y a ce premier regroupement qui est fait, se pose la question de, tout simplement, est-ce que ça suffit en fait? Est-ce que ça suffit d'être homosexuel, d'être lesbienne pour partager du commun, pour partager des luttes? Et donc, il va y avoir toute cette réflexion autour de l'identité homosexuelle qui va se développer, où effectivement, très vite, on va se dire, en fait, non. Et tout particulièrement le courant trotskiste qui va affirmer que effectivement un patron PD n'aura jamais rien à voir avec une ouvrière lesbienne, et du coup que les rapports de classe font qu'il y a des antagonismes particulièrement forts, et que du coup l'homosexualité ne peut pas être suffisante pour lutter. Ce qui va être un petit peu justement l'opposé du courant communautaire, qui à ce moment-là est encore beaucoup moins fort, mais qui, justement, lui, va plutôt poser comme discussion que, justement, il faut un mouvement ouvert à toutes et à tous. Et du coup, il s'agit de défendre n'importe quel homosexuel, n'importe quelle lesbienne.
Alors, avec la multiplication des GLH un peu partout en France, et il y a eu plusieurs tentatives un peu de rassembler tout ce maillage militant, arrive en 79 la création du comité d'urgence anti-répression homosexuelle qui va s'attaquer, en tout cas, aux dernières lois discriminantes qui sont héritées de Vichy. Est-ce que tu peux parler de ces lois d'abord et après peut-être de la création des universités d'été homosexuelles et du QUAR, du coup ?
Du coup, en termes de législation, en France, et ça va être une grande différence par rapport à un certain nombre de pays occidentaux, le crime de sodomie a été supprimé en 1791, et donc finalement en soi il n'y a plus de pénalisation de l'homosexualité en France depuis cette date-là. Pour autant, le pouvoir bourgeois a quand même réussi à réguler a quand même réussi à mettre de la répression dans tout ça, développer tout au long du 19e siècle un certain nombre d'articles de loi qui répriment certaines formes d'homosexualité, l'outrage à la pudeur. Faut savoir aussi que la majorité n'est pas la même pour les hétéros que pour les homos. jusqu'en 1974, du coup jusqu'à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, la majorité pour les homosexuels est de 21 ans, là où pour les hétérosexuels, elle est de 15 ans. Et donc, il y a un dispositif de loi qui réprime les rapports avec des mineurs, mais sauf que le rapport avec des mineurs n'est pas du tout le même entre hétéro et homo. C'est-à-dire que si vous avez 21 ans et que vous sortez avec quelqu'un de 19 ans, on peut vous accuser de détournement de mineurs et vous pouvez aller en taule pour ça. Il faut savoir qu'entre 1945 et 1978, en France, il y a 10 000 personnes qui ont été condamnées à la prison, que ce soit prison ferme ou avec sursis. C'est moins qu'en Angleterre, c'est moins qu'en Allemagne, mais ça représente quand même énormément. Et ça, c'est vraiment juste la répression visible et légale. Il y a ça, et ensuite, la répression, elle va encore s'intensifier à partir des années 60, avec l'adoption d'un nouvel amendement qui s'appelle l'amendement Paul Mirguet, qui est adopté en 1960 et qui va considérer l'homosexualité comme un fléau social. Un fléau social au même titre que l'alcoolisme ou la tuberculose. Et donc voilà, il y a un certain nombre de dispositions pour réprimer l'homosexualité jusque dans les années 70. Et effectivement, on va dire au début de la décennie, quand le mouvement il se pense encore de façon très large dans une perspective révolutionnaire, la question des lois ne l'intéresse que très peu. Il s'agit de faire exploser la société. Il ne s'agit pas du tout de la penser, de la réparer. Et du coup, tout ce qui est revendication légale prend très peu de place dans les revendications du mouvement. Cette situation, elle va changer à la fin des années 70. Elle va changer parce que, et même si c'est un sentiment qui est en réalité assez infondé, les militants et les militantes, ils ont l'impression qu'il y a un espèce de retour de la répression particulièrement fort, parce qu'il y a un certain nombre d'histoires, d'affaires qui passent devant les tribunaux et qui vont être particulièrement médiatisées et qui vont donner ce sentiment et d'un côté de se dire ça fait 10 ans qu'il y a un mouvement qui existe ou en tout cas que des gens essayent de s'organiser autour de la question de l'homosexualité en France et pourtant on continue à être réprimé, on continue à aller en taule, la répression continue. Et donc va y avoir un espèce de shift où ils vont se dire, bon, il faut que cette situation change particulièrement. Et encore plus, les militants et les militantes se rendent compte que, enfin, ils vont dire qu'ils ont l'impression de se couper des masses homosexuelles. C'est-à-dire qu'ils sont quand même pas mal dans des délires, enfin, passent pas mal de temps à élaborer de la théorie, passent énormément de temps à rédiger des journaux, des bulletins, des textes. Et finalement, ce serait comme un peu coupé finalement du quotidien des homosexuels et des lesbiennes. Et du coup, ils disent, il faut qu'on transforme notre lutte, pour finalement comme tout simplement mettre fin à ces reliquats de répression qui font que la réalité, le quotidien des homosexuels et des lesbiennes est encore différent, enfin, est encore difficile, réprimé à la fin des années 70. Et surtout, c'est un mouvement qui est particulièrement divers, avec énormément de tendances, énormément de groupes. Chacun élabore sa propre théorie politique. Du coup, il y a peu d'unité, il y a peu de commun. Et du coup, c'est le GLH de Marseille qui va proposer en 1979 de se retrouver le temps d'une semaine en juillet, du côté de Marseille, à la Fac des Beaux-Arts de Lumini, pour justement prendre le temps. Parce que, en fait, les rencontres qu'il y a entre les groupes tout au long de l'année, elles sont très rapides, c'est le temps d'un week-end. Et ils se disent vraiment qu'ils ont besoin de temps pour discuter, pour réfléchir, pour avancer sur l'histoire, enfin, sur le mouvement et ce qu'ils veulent en faire. Et du coup, se retrouvent à Marseille en juillet 1979 et du coup se disent en fait à partir de c'est quoi le dénominateur commun le plus qu'on a toutes et tous sur lequel à partir duquel on pourrait au moins lutter toutes et tous sans être forcément d'accord sur tout et évidemment le dénominateur commun c'est la répression et le fait que justement l'homosexualité est encore réprimée à ce moment-là Et du coup, ils vont se dire, bon, bah, ok, du coup, ce qu'on peut faire pour développer le mouvement, pour lui donner plus de puissance, c'est de lutter sur le terrain de la répression. Et c'est ce qu'ils vont faire en créant le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, le QAR, qui va un peu, ouais, qui va vraiment se lancer dans une lutte anti-répressive plutôt que là où le mouvement était plus dans une lutte révolutionnaire.
Donc il y a une volonté un peu fédérative, c'est plein de groupes dont des GLH qui se rassemblent sous le nom du QAR, donc pour lutter contre la principale. Enfin, du coup, si j'ai bien compris, c'est principalement autour d'un combat législatif. Ils s'arment d'un manifeste. Est-ce que tu peux parler un peu de ce manifeste et de, donc on le sait, on ne divulgage pas de, donc la victoire législative du QAR en 82. Et oui, et la participation aussi à l'élection de François Mitterrand, quoi.
Du coup, effectivement, il y a cet enjeu-là. Il y a les élections présidentielles de 1981 et où les militants et les militantes se disent bon bah c'est l'occasion, quoi. C'est maintenant qu'il faut lutter. La perspective que les socialistes remportent l'élection présidentielle va pousser le mouvement à véritablement se focaliser ou lutter sur le terrain du législatif et pour l'abrogation des lois qui répriment encore l'homosexualité. Et ils vont en fait développer toute une campagne à partir de 1980-1981 pour questionner finalement les partis, les candidats, les candidates sur leur position quant à l'homosexualité pour pousser tout le monde finalement à une forme de clarification. Et en fait, ils vont profiter de l'élection présidentielle pour faire campagne, en fait, pour parler d'homosexualité à grand bruit. Et ça va finir en apothéose le 4 avril 1981 où le QAR organise une manifestation à Paris qui va rassembler 10 000 personnes. Et c'est la plus grosse et la plus grande manifestation d'homosexuels et de lesbiennes qui a lieu en Europe occidentale à cette époque-là. Et dans les récits que les militants et les militantes me font de cette journée-là, c'est un des plus beaux jours de leur vie. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de monde. Pour beaucoup d'entre eux, d'entre elles, ils s'imaginaient rester sur le trottoir et voir les gens passer. Mais il y a une telle énergie, il y a un tel élan que tout le monde se retrouve dans la marche et va passer la nuit à faire la fête ensemble. Et voilà, ça va être vraiment un moment hyper important dans l'histoire de ce mouvement et qui va aussi avoir un impact, une influence sur le positionnement des partis justement quant à l'homosexualité et cet engagement qui est pris par François Mitterrand justement de mettre fin aux dispositifs, aux dispositions qui réprimaient encore l'homosexualité en France à ce moment-là.
Donc c'est vrai, par abus de langage, on dit que c'est en 82 la dépénalisation de l'homosexualité, mais c'est pas exactement ça. Donc après cette victoire du QAR, le mouvement homosexuel se demande un peu dans quelle direction aller. Qu'est-ce qui se passe du coup après 1982, maintenant qu'il y a eu une victoire? Est-ce que, alors on a la réponse aussi, mais est-ce que on pense à ce moment-là que c'est la fin de l'homophobie?
Alors clairement, la fin de l'homophobie, non. Et même eux, ils en ont conscience. Va se poser vraiment la question de effectivement maintenant que les dernières dispositions légales qui réprimaient l'homosexualité ont été abrogées, qu'est-ce qu'on fait du mouvement? D'autant plus que le mouvement tout au long de ces dernières années, il s'est vraiment concentré sur une lutte anti-répressive. Et du coup maintenant il n'y a plus a priori de répression légale, à quoi sert encore le mouvement? Et en fait, c'est ce qui a permis à pas mal de monde de dire que le mouvement, après 82, s'effondrait. Que l'histoire de la mobilisation homosexuelle, elle allait subir finalement ce que tous les autres mouvements sociaux vont subir dans les années 80, c'est-à-dire le libéralisme et la fin des mouvements. Mais c'est faux. C'est faux d'une parce que le début des années 80, c'est le développement du mouvement lesbien de façon immense. Enfin, c'est voilà, après la rupture autour de la revue Question féministe et les différentes tendances et les mouvements. Enfin, bref, le mouvement lesbien vraiment se développe à partir du début des années 80. Donc, ça serait déjà comme oublier toute une partie de la mobilisation. Et ensuite, Donc depuis la naissance du QR, la mobilisation, en fait, elle s'est vraiment passée à une échelle nationale. Il s'agissait d'organiser des campagnes, il s'agissait de faire signer des pétitions, de faire des manifs. Voilà. C'était vraiment une perspective qui était nationale, pensée autour de cela. Et une fois que ça s'est gagné, il y a l'idée, l'envie de revenir à un militantisme beaucoup plus existentiel, beaucoup plus proche de ce qu'étaient les GLH dans les années 70. Et du coup, en fait, les groupes vont revenir à un niveau beaucoup plus local et vont développer en fait beaucoup plus d'activités autour des groupes. C'est le moment où vont se développer des lieux associatifs gays et lesbiens qui seront probablement les précurseurs des centres LGBT tels qu'on les connaît aujourd'hui. On va en avoir une douzaine qui vont éclore entre 81 et 84. Et du coup, il va y avoir toute une vie beaucoup plus locale, beaucoup plus associative qui va se développer. Et effectivement, là où peut-être dans les années 70, le mouvement s'inscrivait beaucoup plus dans une perspective révolutionnaire, là, on va être beaucoup plus dans une perspective communautaire où les groupes et associations qui vont militer pour le soutien légal, le soutien d'assistance sociale va prendre beaucoup plus le pas que sur la revendication politique en tant que telle.
Oui, tu l'as évoqué, avec les années 80, une approche peut-être plus libérale, sans la connotation qu'on lui met aujourd'hui, quoi, mais une approche qui est complètement différente. Et ton livre s'arrête à peu près à ce moment-là, mais arrive la nouvelle urgence de l'épidémie du sida. La question est extrêmement vaste, mais comment est-ce que les GLH ou le restant du QR s'organisent face à l'épidémie qui arrive, et comment est-ce que l'épidémie peut-être réagence le maillage militant?
Ouais. Je pense qu'une première chose qu'il faut dire quant à l'épidémie du VIH-Sida, c'est qu'il a été longtemps raconté par un certain nombre de personnes que le mouvement homo avait une grande responsabilité dans la propagation de l'épidémie en France, parce qu'il venait d'acquérir des nouveaux droits, et du coup, comme il n'aurait pas voulu se préoccuper de cette question-là, parce qu'il était plutôt tourné à profiter de cette nouvelle situation. Les premiers cas de VIH-Sida qui apparaissent dans la presse, ça va être en septembre 1981 en France. On va parler pour la première fois de cas d'une nouvelle maladie qu'on ne connaît pas trop encore, qui touche les États-Unis. Au début, il y a juste énormément d'incertitudes. On ne sait pas de quoi on parle. On ne comprend pas les modes de contamination. À un moment donné, on se pose la question de est-ce que c'est le poppers qui participe à la transmission. Enfin, il y a une espèce d'ignorance générale et généralisée, et qui fait que les militants et les militantes sont au départ comme complètement pris au dépourvu face à cette situation-là. Et d'autant plus que les premières années de l'épidémie, les cas se comptent par dizaines, peut-être par centaines à partir de 85-86, mais au début, c'est vraiment un nombre de cas qui peut paraître comme particulièrement faible et qui pose la question de à quel point il faut se préoccuper de cela. Mais très vite, les militants et les militantes, du coup, contrairement à ce qui a pu être raconté, vont chercher à mettre en place une mobilisation pour essayer déjà de comprendre ce qui est en train de leur arriver, trouver de l'information, discuter avec les médecins qui, jusqu'à peu encore, la France jusqu'en 1981 considérait l'homosexualité comme une maladie mentale. Du coup, il y a des rapports de défiance particulièrement forts avec le milieu médical. Et c'est progressivement qu'il y a un savoir, une connaissance qui va être développée par les militants et les militantes, beaucoup souvent justement lors des UH, des universités de l'homosexualité. C'est lors de l'UH de 1983 que va naître la première association de lutte contre le VIH-Sida en France, qui ne s'appelle pas encore comme ça, hein, mais du coup qui s'appelle Vaincre le Sida, VLS. Et progressivement, en fait, l'horreur se répand partout. Les gens commencent à mourir, et particulièrement, de façon particulièrement forte dans le mouvement. Et à partir de 1984, il y a les premiers tests ELISA, donc c'est les tests qui permettent de découvrir la séropositivité. Sauf qu'on est en 1984, les premières trithérapies, ça sera en 1996. Donc quand on nous annonce qu'on a le virus, c'est une annonce de mort. Donc les militants, majoritairement les militants, hésitent, ont peur de faire les tests. Ça va vraiment comme paralyser l'ensemble du mouvement. Et là où, par exemple, le QR continue à avoir des campagnes de revendications pour changer les mentalités, pour avoir accès aux médias, voilà. C'est des questions qui vont devenir d'un coup complètement superficielles. L'urgence, elle est complètement ailleurs. Et d'autant plus à partir de 1986, qui est vraiment le basculement dans l'épidémie, où on passe de quelques dizaines et centaines à plusieurs milliers de cas. Et ça va être des chiffres qui vont se multiplier tout au long des années pour arriver à ce chiffre malheureux de 40 000 morts en France.
Ton livre se conclut donc sur la naissance de AIDS notamment. Merci. Pardon, on ne peut pas exactement parler de AIDS ou de ACT UP, ce qui est pas... Enfin, voilà. Pardon. Quels héritages est-ce que le mouvement homosexuel a aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'a... On pense beaucoup en fait à ACT UP ou quoi, mais que doit le militantisme actuel au GLH et au queer ? Ça, c'est le moment perspective vers l'avenir, du coup.
Bonne question. Je pense, moi, il y a... Bah, pour moi, c'est beaucoup de l'inspiration, de lire des textes, des tracts de l'époque que je trouve pour certains encore d'une actualité particulièrement forte. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont été tentées, essayées, réussies, souvent ratées, et qu'il y aurait comme des perspectives pour s'inspirer finalement de ce qui s'est passé à cette époque-là. Je pense qu'il y a une histoire qui me et qui fait énormément écho avec l'époque dans laquelle on vit, qui me touche à fond, qui est que donc dans cette époque-là de fascisme rampant dans laquelle on vit, en fait, il y a à l'UH de 1987, il y a un groupe qui participe à l'UH au tout début, qui s'appelle Gay France. Alors, faut savoir que du coup, les années 80, c'est aussi le début et le développement d'une homosexualité de droite organisée. Là où plutôt, ouais, dans les années 70, on joue à gauche et à l'extrême gauche. Avec les années 80, il y a une homosexualité de droite, ouais, qui s'organise, particulièrement autour d'un premier groupe qui s'appelle le MGL, Mouvement des Gays Libéraux. Et voilà. Et par la suite, parce que quand même ça reste une décennie où c'est quand même le retour retour du bâton, la droite qui revient très fort, le Front National qui se développe. Donc il y a un groupe qui s'appelle Gay France, qui naît au milieu des années 80 et qui va aller à l'UEH de 1987. Et en fait, Gay France est un groupe homo, certes, mais d'extrême droite. Et au départ, comme c'est une espèce de forme de stupéfaction pour ceux, celles qui sont présentes à l'UH, de dire mais c'est qui ceux-là là ? Et en fait, ils vont très rapidement, ils vont les virer. Et du coup, ils vont se casser. Et à partir de là, va se constituer un nouveau collectif qui est le collectif homosexuel et lesbien antifasciste, qui naît du coup en 1987, qui va perdurer pendant un petit temps. Et qui va chercher à faire trois choses. D'une, faire ce qu'ils appellent de la littérature de combat, essayer de sensibiliser du coup leur communauté, le mouvement homo, à l'extrême droite. Le deuxième, ça va être de créer des comités antifascistes partout là où ils le peuvent. Et enfin, ça va être de s'organiser avec d'autres organisations fascistes en France, à l'international. Et je sais que dans certaines villes en France, il y a des collectifs queer TPG qui ont déjà commencé à faire ça. Mais j'ai l'impression que dans l'époque dans laquelle on vit, il y a comme ça des petites réminiscences du passé qui pourraient nous faire du bien pour ne pas désespérer et continuer à lutter.
Merci Mathias. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
J'ai vu qu'il y avait plein de photos dans ton livre. Est-ce que tu peux nous dire d'où elles viennent et comment tu les as récoltées ?
Ouais. Du coup, ces photos, elles viennent d'un garçon, je les appelle toujours des garçons, même s'ils ont aujourd'hui entre 70 et 80 ans, qui s'appelle Jean-Claude. Ça a fait partie justement de toute cette chasse au trésor. De Jean-Claude, je l'ai rencontré il y a quelques années maintenant. Jean-Claude, c'était le photographe du QR. Ça n'a jamais été son rôle officiel, mais il était toujours là avec son appareil photo et il a pris énormément de photos que j'ai pu retrouver par la suite dans le QR. Il avait un journal qui s'appelle Homophonie et il y a énormément de ces photos dans ce journal. Et pareil, dans cette chasse au trésor, dans cette toile que j'ai progressivement constituée, j'ai réussi à avoir son mail. Et j'avais très envie de faire un entretien avec lui. J'avais très envie de lui parler. Mais comme souvent, finalement, avec les militants et les militantes, il dit, écoute, moi, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste fait des photos. J'ai pas grand-chose à dire. Un tel ou une telle te parlera beaucoup mieux que moi. Mais par contre, j'ai des photos. Et du coup, il m'a invité à venir chez lui dans le sud de Paris. Et du coup, j'ai passé une journée entière avec lui à regarder finalement les centaines de photos qu'il avait. Et je me disais que on a finalement assez peu d'images ou assez peu d'imaginaire de à quoi ressemblaient ces décennies-là. Alors de fait, c'est beaucoup plus des photos des années 80. Parce que dans les années 70, le rapport à l'anonymat, il est encore particulièrement fort. Si vous fêtez, il y a une photo par exemple d'une manif d'un 1er mai à Marseille en 1978 où la grande majorité des membres du GLH, en fait, ils portent un masque blanc parce qu'ils ils peuvent toujours pas en fait assumer leur homosexualité au grand jour, même s'ils militent pour ça. Et du coup, Jean-Claude, il a pris énormément de photos tout au long de ces années-là et il a été tout à fait d'accord de les mettre dans le bouquin, ce qui est vraiment une très chouette chose.
Merci. C'était juste pour savoir qu'est-ce qu'ils étaient devenus, les gens que t'avais interrogés. Et, je sais pas, est-ce qu'ils ont continué à militer ? Enfin, c'est quoi leur parcours et tout ?
Y a une très grande partie qui sont morts du sida. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? En tout cas, pour ceux que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter et qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont aujourd'hui devenus des amis, ils ont continué à militer de façon différente, plus trop dans le mouvement d'ailleurs, enfin plutôt dans des questions, plutôt dans le mouvement LGBT, plutôt ailleurs, pas mal de syndicalisme, certains sont encore dans des partis d'extrême gauche. Je pense qu'il y en a pas mal qui ensuite se sont tournés vers des métiers de la culture ou vers du journalisme, ce genre de trucs. À peu près.
Oui, je voulais savoir si dans les archives auxquelles tu as eu accès, il y avait des chiffres, des différents. Qui donnaient une ordre d'idée des combien de personnes étaient dans les GLH,
ouais.
Dans les différents.
Alors, pour les GLH, j'ai jamais trouvé de chiffres en tant que tel parce que c'est des groupes qui sont pas très bureaucratiques. Et du coup, il n'y a pas de carte d'adhérent ou ce genre de truc. Mais on peut partir de l'idée, parfois dans les archives, tu retrouves quelques indications, quelques indices qui pourraient justement essayer de donner des chiffres. Et un GLH de taille moyenne dans une ville moyenne, ça serait entre 30 et 40 personnes qui se réunissent plus ou moins régulièrement avec un noyau dur d'une dizaine de personnes qui tiennent vraiment le groupe. Le GLH de Marseille, c'est un des GLH les plus importants. Lui, il va y avoir une centaine de personnes. Donc ça, c'est assez conséquent. Les GLH à Paris, évidemment, ils sont un peu plus gros aussi. Mais voilà, on peut partir sur une trentaine, quarantaine de personnes pour les GLH. Du coup, on peut se dire que s'il y a une trentaine de GLH dans les années 70, tu multiplies par 40. Voilà. Et pour les années 80, c'est un peu plus facile parce que le QR, du coup, qui est vraiment qui est une coordination des groupes homosexuels et lesbiens, certes des GLH, mais aussi des groupes lesbiens, mais aussi des groupes religieux, comme David et Jonathan, qui est du coup groupe catholique, le Beit Haverim, qui est un groupe religieux juif. Voilà, il y a différents groupes qui vont faire partie du QR. En fait, le QR grandit très vite et du coup, ils vont avoir des mandats. En fait, tous les 2-3 mois, le QR se retrouve en coordination nationale dans une ville différente et ils vont devoir du coup prendre des décisions comme organiser une campagne, celle pour les élections présidentielles de 81 par exemple. Et du coup, là où avant c'était très peu bureaucratique, ça va le devenir de plus en plus et ils vont introduire le vote et ils vont avoir des mandats. Et j'ai pu comme ça compter qu'il y avait un mandat pour 10 militants, militantes dans le groupe ou dans l'asso. Et je suis arrivé à peu près à des chiffres entre... mais là, vraiment, ça concernait que le QR, entre 2500 et 3000 personnes qui étaient militants, qui faisaient partie d'un membre d'un groupe. Et après, on pouvait extrapoler les sympathisants de façon un peu plus large, autour entre 4 et 6000 personnes. Alors, je l'ai quand même, on va dire, enfin, clairement, je l'ai beaucoup plus retrouvé dans des archives qui concernent des groupes où il y a, enfin, où c'est des garçons qui parlent, quoi. Pour autant, comment dire, quand j'en discute avec les militantes de l'époque, elles me racontent aussi une histoire pas tout à fait similaire, je pense, mais qui s'en approche en tout cas, quoi. Qu'elles aussi, elles venaient chercher leur meuf dans un groupe, enfin, qu'elles avaient à peu près les mêmes envies que les garçons.
Ah, le GLH de Toulouse.
Alors, ça, c'est un truc qui m'a pas mal frustré. Parce que la seule trace que j'ai... Enfin, j'ai trouvé très peu de traces du GLH de Toulouse. J'ai trouvé un encart dans Libération. Le journal Libération va avoir une importance particulièrement forte pour le mouvement tout au long des années 70. C'est là où ils vont publier leurs manifestes, leurs petites annonces, les rencarts pour constituer un groupe. Vraiment, ça va vraiment se passer en partie dans Libération. Et du coup, j'ai pu trouver une petite lettre, un petit encart du GLH de Toulouse dans Libé. J'ai pu trouver une lettre que le GLH de Toulouse avait envoyée au GLH de Bordeaux. Du coup, je me suis dit, ah bah, c'est sûr qu'il y a un GLH qui a existé. D'ailleurs, le GLH l'adresse que j'ai trouvée du GLH, c'était à Arnaud Bernard, dans une librairie qu'il y avait à ce moment-là, à ce niveau-là. Mais je sais pas trop pourquoi. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que Toulouse, ville universitaire, ville très militante, avec plein de courants, plein de tendances, plein de conflits. Et que, en fait, que le groupe, contrairement à des plus petites villes où il n'y avait pas trop d'autre choix que de tenir le groupe et le faire exister, que, en fait, j'ai l'impression qu'à Toulouse, le GLH il a explosé plein de fois et qu'il s'est recomposé un certain nombre de fois aussi. Mais vraiment, ça reste assez énigmatique et je n'ai jamais rencontré personne du GLH de Toulouse.
Merci beaucoup, beaucoup, Mathias, en tout cas, de nous avoir choisis pour lancer le livre. Ça s'appelle « Quand nos désirs font des ordres », c'est paru aux éditions Luxe. Merci beaucoup et bonne soirée.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre. Retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova, Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h. 92.2 sur Canal Sud.